Bon matin à tous. Bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition déjà du 6 août. Voilà, 10, j'allais dire 10, mais en fait, c'est le 6 août. Mon nom est Claude Blas. Cinquième canicule de l'été. Il faut rester positif. Pour certains, c'est négatif, mais pour d'autres, on ne le sait pas. Mais il semble qu'il faut s'adapter. Voilà. Eh bien, ce matin, encore une fois, je suis accompagné de deux collaborateurs, entre autres M. Roger Roy. Comment allez-vous ce matin?
Oui, nous allons très bien, merci.
Oui, pas trop de chaleur, non?
Ce week-end, bien dormi. Je trouve comment ça, un peu lourd. Là.
Un peu lourd, hein?
Ah, oui, oui.
Mais quand même.
On n'est pas habitué, là.
Non.
On ne va pas passer nos hivers au Mexique, nous, là.
OK. Vos sujets ce matin, s'il vous plaît. Sujet, ce matin.
Il est temps de décrocher. Je ne parle pas de la chaleur.
Non.
Puis ensuite, c'est un autre sujet. Un autre sujet, c'est les personnes sourdes. Hein. Le texte, c'est ces sourds qui ne veulent pas entendre.
Ah! Ouais. Bien d'entendre ça. Merci.
C'est spécial un peu parce qu'on peut croire que la normalité, c'est d'entendre. Mm-hmm. Il y a des sourds qui disent, attendez, on a notre propre façon de vivre, notre propre culture.
Et ils ont des façons d'entendre.
Ils ont des façons.
Ouais. Merci beaucoup, Roger. Serge Hamelin, ce matin, encore une fois.
Oui, bonjour, vous allez bien?
Comment ça va? Ça va très bien, merci.
Mon grand-père était sourd, mais c'est ce que ma grand-mère disait. Il n'était pas sourd du tout.
Oui. Oui.
OK, alors moi, je vais vous parler de l'ultime rempart des consommateurs, des mesures qui font l'envie de la planète pour se protéger des commerçants véreux, et comment trouver enfin un bon conseiller financier.
Ah, enfin! On va le savoir ce matin. Ouais. Quand même. De mon côté, deux textes, quand l'amitié rencontre l'amour, on parle d'AVC. En fait, c'est un papier qui a été écrit pour José Boudreau. Vous connaissez José Boudreau?
Oui,
oui. Animatrice. Oui. Effectivement, alors c'est un papier que j'ai retrouvé. Et survivre aux nuits de canicule, est-ce un sujet important en ce moment?
Ah oui.
Ouais, je vais vous donner quelques trucs. Voilà. On vous revient dans quelques instants avec Roger. Alors, Roger, premier texte.
Oui, il est temps de décrocher. Décrocher.
Décrocher.
Catherine Dubé, c'est dans l'actualité du mois d'août. Mm-hmm. Il s'agit d'un long texte qui est résumé comme suit par l'auteur. Nos téléphones ont été conçus pour nous rendre accros. Et ça marche. Mais cette dépendance n'est pas sans conséquence et les experts sont de plus en plus nombreux à tirer la sonnette d'alarme sur les troubles qui guettent nos cerveaux surchargés. Pour reprendre le contrôle sur cette drogue des temps modernes, il faut comprendre comment elle agit sur nous et apprendre à se mettre en mode avion. Alors, je vous lis des extraits de ce texte. Comme je l'ai dit, c'est assez long, 37-8 pages dans l'actualité. Tout le monde, ou presque 80% des Canadiens, je ne savais pas, possède désormais un téléphone intelligent, selon le cabinet Deloitte. Nous sommes environ 1 sur 5 à consulter notre appareil plus de 50 fois par jour. 1 sur 3 à le consulter moins de 5 minutes après notre réveil et tout autant le faire au beau milieu de la nuit. Les chercheurs, mais aussi les programmeurs, les psys et les spécialistes des sciences cognitives commencent à avoir une assez bonne idée de ce qui, dans cette techno qui chamboule nos habitudes de vie, nous rend accros, distraits et surmenés, et des façons de ne pas lui laisser gérer toute notre existence. Mais, peut-être facile à dire, pas si simple à faire, de se libérer de l'emprise de ces objets, car ils ont été conçus pour rendre ces utilisateurs accros. Ils ont été conçus pour ça. D'ex-employés repentis de la Silicon Valley ont en effet avoué publiquement, à commencer par Tristan Harris, programmeur et ancien responsable du design d'éthique à Google, maintenant tête de proue du mouvement Time Well Spent. Il a quitté l'entreprise pour fonder le Center for Humane Technology, un organisme qui regroupe des dizaines d'entrepreneurs, des chercheurs et des programmeurs qui militent pour un meilleur encadrement des entreprises technologiques et un design réellement éthique des applications. Le groupe qualifie les méthodes employées actuellement de « piratage cérébral ». Notre attention vaut en effet très cher. Plus les entreprises technologiques arrivent à la capter longtemps, plus elles font de l'argent, puisque c'est le nombre d'utilisateurs et le temps passé sur leur plateforme qui donnent de la valeur à leurs titres boursiers et leur permettent de vendre de la publicité. Elles embauchent donc non seulement des programmeurs, mais aussi des spécialistes des sciences cognitives et de la psychologie qui savent très bien exploiter les points faibles du cerveau humain, notamment son fort penchant pour les nouveautés. Chaque fois que nous recevons un texto, que nous découvrons la plus récente vidéo virale sur YouTube ou que nous apprenons que notre dernière publication sur Facebook a reçu des dizaines de « j'aime », notre cerveau sécrète instantanément une dose de dopamine, un puissant neurotransmetteur qui procure une sensation de plaisir et d'excitation. À force d'obtenir une telle récompense chaque fois que nous consultons notre appareil, le cerveau finit par anticiper le plaisir et produit de la dopamine dès que nous tendons la main pour saisir ce sacré téléphone. Selon Jean-Philippe Lachaud, qui est un chercheur dans l'Institut de santé de Lyon, l'humain disposerait aujourd'hui d'un sens supplémentaire branché sur les cinq autres, le sens numérique. Alors que la vue, l'ouïe et les autres sens nous renseignent sur notre environnement immédiat, ce sens numérique nous informe sur l'état du monde comme si nous étions branchés sur la planète en continu. Le problème, c'est que le cerveau humain n'est pas équipé pour traiter efficacement la masse ahurissante d'informations qui lui parviennent par ce nouveau canal. Pour les autres sens, le cerveau s'est doté au cours de l'évolution de systèmes pré-attentifs qui lui permettent d'analyser de manière rudimentaire les renseignements lui parvenant pour n'en retenir que les plus pertinents. Ainsi, en marchant sur un trottoir, nous ne nous soucierons pas de la circulation fluide du boulevard, mais un chien agressif courant dans notre direction retiendra tout de suite notre attention. Le sens numérique ne dispose pas d'un tel système de filtrage. Lorsque nous naviguons sur Internet, tout semble être d'égale importance pour le cerveau, ce qui explique notre propension à cliquer sur ce lien sans aucun rapport avec la recherche que nous étions en train de mener. Quand un courriel ou un texto nous parvient, un bon système préattentif devrait analyser rapidement le message et évaluer son importance potentielle avant même de nous déranger, écrit Jean-Philippe Lachaud. Mais ce n'est pas le cas, et nous ne pouvons déterminer son importance sans engager la lourde machinerie du traitement attentionnel de l'information, ce qui explique la fatigue mentale engendrée par cette surcharge. Alors, comment se libérer de cette dépendance? Comment maîtriser ce sixième sens? La journaliste Catherine Price a écrit un livre, il y en a d'autres, mais j'ai choisi de vous parler de Catherine Price, qui a écrit un livre qui s'appelle, qui a pour titre « Lâche ton téléphone ». Mon objectif n'est pas de vous faire jeter votre téléphone. Je suis très heureuse de profiter de cet outil qui me donne accès à tant d'informations et peut servir de GPS et de DJ. Il faut simplement réapprendre à commander la machine plutôt que ce soit elle qui ait le pouvoir sur nous. Ces appareils sont entrés si rapidement dans notre quotidien que la plupart d'entre nous avons succombé au coup de foudre sans prendre le temps d'établir des règles de vie communes. Première étape, observer notre propre comportement. Au jour 1, la seule chose à faire est d'installer une application qui mesure le temps passé à pianoter sur cet écran. Le jour 2, il suffit de répondre à 6 questions sur notre rapport actuel avec l'objet sans encore rien y changer. Tenter de se sevrer sans préparation est voué à l'échec, explique Catherine Price. Son approche est basée sur la pleine conscience, une posture mentale qui consiste simplement à être entièrement attentif à ce que nous sommes en train de faire dans l'instant présent. Après des années de multitâche et de vitesse, cela demande un certain effort, avouons-le. Pour terminer, voici quelques astuces proposées par Catherine Price dans son livre « Lâche ton téléphone ». Achetez un réveil matin pour que votre cellulaire ne soit plus le premier objet que nous saisissons le matin. Ne plus le charger dans notre chambre pour limiter l'envie de nous en servir avant de dormir ou encore en pleine nuit. Faire le ménage de notre écran d'accueil et organiser nos applis dans des dossiers pour créer des ralentisseurs. Ouvrir une appli cachée dans un dossier devient un geste volontaire plutôt qu'un automatisme. Installer Space Boundless Mind qui engendre un délai d'une douzaine de secondes avant l'ouverture d'une application. Désactiver les notifications, sauf celles de l'agenda et de la messagerie instantanée. Instaurer un sabbat numérique de 24 heures une fois de temps en temps. Les gens paniquent à ce sujet, dit Catherine Price, mais c'est plus facile qu'on pense et ça soulage d'un stress qu'on ne savait même pas qu'on avait. Pour survivre à ce moment et bien en profiter, il faut le préparer. Alors, ce qui était un peu ironique, là, c'est ceux qui ont monté le système qui maintenant disent « On a tout fait pour que vous deveniez accro, mais maintenant, pour vous décrocher, Ouais, comment on fait?
Et vous pouvez bloquer avec les notifications. Tout ça. C'est quand même incroyable.
Incroyable.
Ouais, mais c'est vrai qu'on est tous comme ça.
Oui.
Je suis le premier, malheureusement. Voilà. On vous revient avec Serge. Alors Serge, on peut peut-être trouver un conseiller financier pour l'achat de téléphone?
Hein? De téléphone? Mon Dieu Seigneur! Alors, trouver enfin un bon conseiller financier, c'est tiré de la revue Protégez-vous. Et on dit que tout le monde a besoin d'un conseiller financier pour orienter et maximiser ses placements. Ben, tout le monde, c'est ceux qui ont de l'argent. Parce que ceux qui n'en ont pas beaucoup, n'en ont pas tellement besoin. Quoi qu'on a besoin, c'est quelqu'un des fois pour budgéter. Ça.
Surtout au niveau du crédit.
Ça. Selon Fabien Major, conseiller financier chez Major Gestion Privée, Asante, hein, Asante, et chroniqueur québécois, un conseiller financier est un peu comme un chauffeur de taxi. Tous deux vous mèneront à bon port, mais peut-être pas dans les délais que vous aviez imaginés. Pour le chauffeur, tout dépend de l'achalandage sur les routes et des cônes oranges. Le conseiller, lui, est soumis aux aléas du marché financier. Le conseiller est là pour aider le consommateur à faire de bons choix de placement en fonction de son profil d'investisseur, résume Sylvain Théberge, porte-parole de l'Autorité des marchés financiers, AMF. En effet, la planification financière n'est pas une science exacte et doit être adaptée à la réalité de chacun. Vous êtes en début de carrière, mais vous souhaitez mettre des sous de côté pour la retraite. Vous venez d'avoir un enfant et voulez ajuster votre budget et vos priorités. Vous cherchez des placements adaptés à votre tolérance au risque. Un conseiller financier peut vous accompagner à chaque étape de votre vie. Mais où trouver le professionnel qu'il vous faut? C'est là tout un défi, et se tromper peut avoir des conséquences importantes sur les rendements de vos placements à long terme. Faut-il privilégier un conseiller indépendant ou l'employé d'une institution financière? Dans la jungle du monde de la finance seule, les explorateurs avertis savent comment dénicher la perle rare. Et voici les questions à vous poser dans votre quête du parfait conseiller financier. Quel professionnel pour quel service? Un conseiller financier offre divers services de conseil, souligne Jean Duprier, auteur du livre « Savoir choisir son conseiller financier ». Alors donc, en immobilier, gestion des investissements, fiscalité, assurance, gestion du budget et des emprunts sont tous des volets à votre vie financière pouvant justifier de faire appel au service d'un conseiller financier, une appellation générale souvent utilisée pour parler des différents professionnels pour lesquels l'AMF délivre des permis de pratique. Alors, il y a le représentant de courtier en épargne collective. Il s'occupe de vos placements et investissements dans des fonds communs de placement ou fonds constitués de sommes mises en commun par des épargnants en vue d'un placement collectif. Ensuite, il y a le conseiller en placement ou représentant de courtier en placement. Il vend et achète des actions et des obligations, aussi appelées valeurs mobilières. Troisièmement, le conseiller en sécurité financière ou représentant en assurance de personnes. Il vend, entre autres, de l'assurance vie et invalidité. Il distribue également des fonds distincts qui se rapprochent des fonds communs de placement, mais qui sont assortis d'une garantie de capital. Il y a le gestionnaire de portefeuille. Il gère des portefeuilles, des valeurs mobilières, par exemple, un fonds d'action canadienne. Il est un intermédiaire entre vous et l'un des professionnels plus hauts. Ça, c'est le gestionnaire de portefeuille. Ensuite, il y a le planificateur financier. Il vous conseille sur l'ensemble de vos avoirs et vous aide à réaliser vos objectifs, budget, épargne retraite, succession, etc. Il n'est pas autorisé à vendre des produits financiers à moins de détenir aussi l'un ou l'autre de plusieurs des titres cités précédemment. Certains cabinets offrent une approche intégrée, combinant planification financière et gestion d'un portefeuille, assurance, placement et patrimoine. Selon votre situation financière et patrimoniale, par exemple, si vous êtes propriétaire de plusieurs biens immobiliers, une approche intégrée pourrait s'avérer utile pour vous. Où trouver le bon professionnel? En tant que client, vous devez avant tout bien définir vos besoins, recommande Jean Duprier. Souhaitez-vous obtenir des informations sur la planification de votre retraite ou n'êtes-vous qu'à la recherche d'un certificat de placement garanti, d'une assurance vie ou d'un autre produit financier? Et selon la réponse, vous pourrez mieux orienter vos démarches. Ensuite, demandez à votre entourage, vos parents et amis de vous recommander une personne de confiance, suggère Fabien Major. Et si quelques noms de conseillers vous sont soufflés, vous pouvez ensuite consulter les registres de l'AMF pour vous assurer que ces personnes détiennent bel et bien un ou des permis de pratique, ajoute Sylvain Théberge. Vous pouvez aussi contacter la Chambre de la sécurité financière, CSF, afin de vérifier que ces conseillers n'ont pas fait l'objet de décisions disciplinaires en matière déontologique. Fabien Major avoue que trouver un conseiller peut être un labyrinthe si vous n'avez pas de référence. Il vous faut alors amorcer votre démarche en relevant des noms sur le site de l'AMF, par exemple, puis en prenant rendez-vous avec chacun des conseillers qui affiche le profil de compétences qui vous intéresse. Vous pouvez aussi vous informer auprès d'institutions financières qui embauchent ces professionnels pour servir leur clientèle. Et dans les deux cas, une rencontre physique est capitale, car elle permet de savoir si ça peut cliquer, souligne Fabien Major. Un conseiller indépendant ou qui travaille dans une banque? Il vous faut en effet décider si vous souhaitez faire affaire avec un conseiller indépendant ou un professionnel qui travaille au sein d'une institution financière. Les deux options ont de bons et des moins bons côtés. Premièrement, selon leur statut d'emploi, les deux types de professionnels ne sont pas rémunérés de la même façon et les produits financiers qu'ils proposent sont différents. Un conseiller indépendant, dont une source importante de revenus réside dans les commissions qui lui sont versées par les sociétés de fonds communs, pourrait ainsi être tenté de vous recommander des produits qui seront payants pour lui en commission. Un conseiller peut également être payé sous la forme d'une combinaison de commissions et d'honoraires fixes. De son côté, un conseiller à l'emploi d'une institution financière, qui peut être soumis à une certaine pression du résultat, pourrait vous proposer davantage de produits financiers affiliés à sa banque, sachant qu'ils lui rapporteront un boni salarial en fin d'année. Alors, voyez-vous, il y a ça à considérer. Mais je pense qu'avec ce que je viens de vous donner, maintenant, on est un peu plus allumé.
Oui, tout à fait.
Et vous pouvez vous servir de votre téléphone pour téléphoner.
Il faut surtout aller voir sur le site de l'AMF. Hein, c'est ce qu'on retient, dans
oui.
le fond, pour aller voir le conseiller, oui. s'il est bon ou pas bon. Oui. On s'en va à la pause musicale et tout de suite après, je vous reviens avec un texte. « Quand l'amitié rencontre l'amour ».
Changer mes pneus, ça coûte de l'argent. Yeah. Je vais chez mon barbier pour faire couper mes cheveux, ça coûte de l'argent. Oui, l'argent fait le bonheur. Je vais au magasin pour m'acheter des cossins, toujours l'argent. Yeah. Je veux manger des bananes, manger des dîners en canne, mais j'ai pas d'argent. C'est ça qui est le malheur. L'argent fait le bonheur. L'argent. Si tu veux t'amuser, ça prend l'argent. Si tu veux t'éclater, que ta nana prenne son pied, ça prend l'argent. Oui, beaucoup, beaucoup d'argent. Sing it. Oh yeah. Hey yeah yeah. Oh yeah. Yeah yeah yeah. L'argent fait le bonheur. L'argent.
low. Got to get my hands on a sweet, sweet dough. If I can't get enough, guns are going to get rough. Ending up in the ditch, running out of right stuff. Tu veux changer le monde, tu reçois toujours des comptes, encore l'argent. Et ça monte, pour toi c'est la fin du monde. Fuck l'argent, mais l'argent fait le bonheur. Quand tu en auras plus, t'auras manqué l'autobus. Usé comme tous tes gugus, t'auras perdu tout ton temps. Pour l'argent, il fait le bonheur. L'argent, l'argent fait le bonheur. Ce qu'on veut sans l'argent. On peut dire ce qu'on peut, mais l'on fait pas ce qu'on veut. Sans l'argent.
Et si ça fait l'objet d'une chanson, c'est que forcément ça doit être vrai. L'argent fait le bonheur, les Respectables.
Oui. Un texte que j'ai trouvé sur le site du magazine Vivre, ça se titre « Quand l'amitié rencontre l'amour ». Eh bien, c'est une rencontre qu'on a faite avec José Boudreau, que vous connaissez peut-être, même sûrement, humoriste et animatrice et conférencière aussi, et de son copain de toujours, Louis-Philippe Rivard. Elle dit « Il y a beaucoup de gens qui, après un AVC, ne sont plus capables de rien faire. Moi, je suis encore capable. Tranquillement, mais sûrement. Je suis contente de ça. Je me dis toujours que la vie est facile pour moi. Quand je me réveille le matin, je suis contente d'être là. Je suis consciente de ma chance et c'est ça, mon bonheur. J'ai de mauvaises journées, comme tout le monde, mais ce n'est pas grave. On continue parce que demain, ça ira mieux. La vie n'est pas toujours facile, mais on fait avec. » C'est José Boudreau qui titre ça. « La seule et unique personne avec laquelle nous allons passer chaque seconde de notre vie, c'est nous. Nous devrions tous croire en nous, être importants à nos yeux, ressentir la fierté devant nos accomplissements. C'est pourtant, malheureusement, bien souvent, l'inverse qui se produit. Beaucoup d'entre nous excellent dans l'art de l'autocritique et de la dévalorisation. » Pas l'animatrice et conférencière Josie Boudreau. Depuis toute petite, elle accueille la vie et en savoure chaque instant. Dans son premier livre, publié en 2014, elle nous propose de devenir notre meilleur ami. Qu'est-ce que ça pourrait bien changer dans nos vies? Tout, probablement. José a subi deux AVC en 2016 et 2017. La communicatrice a perdu une grande partie de ses mots. Pourtant, quand on la rencontre, on se rend vite compte qu'elle communique mieux que jamais. Peut-être est demeurée sa meilleure amie ce qu'elle fait merveilleusement bien. Elle nous dit qu'il faut apprendre à réfléchir avec le cœur. Pour elle, un ami, c'est quelqu'un qui connaît tous nos défauts et qui nous aime quand même. C'est le regard qu'elle nous propose de porter sur nous-mêmes, un regard rempli d'affection et de compréhension. Elle nous propose de pratiquer l'autocompassion, tout un défi quand on a l'habitude de se taper sur la tête. Cette entrevue, elle nous l'a accordée en compagnie de son ami, complice, partenaire, âme sœur, son chum, quoi, Louis-Philippe Rivard. Ton cœur te dit là où il faut que tu sois. Mais ce ne sont pas nos peurs qui nous empêchent de l'entendre. Il faut écouter ce que notre cœur murmure, et il a raison. Il nous indique la voie. Déjà, petite, je parlais beaucoup. J'avais toujours quelque chose à dire. J'ai fait exactement ce que je voulais en choisissant une carrière en communication. Le 1er juillet 2016, en vacances aux États-Unis avec son chum et ses filles, la vie de José bascule. Un premier AVC endommage la partie de son cerveau qui traite le langage. La communicatrice perd la parole et ne peut plus lire ni écrire. En septembre 2017, elle en subira un second. Deux ans plus tard, non seulement elle a surmonté l'épreuve, mais elle est un modèle de résilience pour tous ceux et celles qui cherchent à mieux profiter de leur vie. Elle est plus que jamais sa meilleure amie. Maintenant que j'ai moins de mots, j'entends encore mieux ce que mon cœur murmure. On rit, mon chum et moi, de la communicatrice privée de parole que je suis devenue. J'ai moins de mots qu'avant. Et je ne les retrouverai probablement pas tous. Mais je m'exprime encore. Le 18 février 2017 a été une journée importante pour moi. 7 mois après mon AVC, j'ai réalisé que j'étais aussi heureuse qu'avant. Même plus. Je n'étais plus fatigué. Je faisais ce que j'aimais le plus au monde, communiquer. Ce qui me rend heureuse aujourd'hui, c'est que j'ai la certitude que malgré ce qui m'est arrivé, tout est possible. C'est le début de la plus belle partie de ma vie et j'en suis sûr. Je suis très fier de moi, c'est vrai, plus que jamais. Quand tu es dans l'épreuve, tu avances. Tu ne sais pas que c'est dur. Ce n'est pas parce qu'on recule un peu qu'on n'avance pas. Il faut parfois fléchir les genoux pour mieux rebondir. Grâce à cette courte question, why pee? Je voyage beaucoup plus léger. Je vais reconduire ma fille à sa pratique de soccer sans que la cuisine soit complètement à l'ordre. Why pee? On ramassera au retour. Aller à l'épicerie, déjà que c'est compliqué pour moi de faire ma liste, sans être parfaitement bien mise, ça m'arrive maintenant. Why pee? Il suffit de choisir nos combats et de ne jamais oublier que les gens nous regardent beaucoup moins qu'on pense. Il faut reculer pour prendre son élan. La vie n'est pas toujours facile et elle continuera d'être parsemée d'embûches pour vous comme pour moi. J'aime laisser ma trace dans le cœur des gens que j'aime. Juin est le mois de ma naissance. C'est aussi le mois des lilas, une fleur que j'adore. Chaque année, je m'exclame sur la beauté des lilas. Bien sûr, je reçois beaucoup de bouquets de lilas pour mon anniversaire. Bien sûr que ça me fait plaisir. Mais surtout, je sais ce que je fais. Grâce à mes lilas, je marque le temps. Quand je serai plus ici, les lilas sentiront maman. Alors voilà, quel beau texte de José Boudreau et quelle réalisation dans sa vie, naturellement. Malheureusement, c'est après une maladie, mais quand même, on réalise et on peut prendre quelques éléments de ce texte. Voilà, deuxième partie de l'émission qui s'en vient dans quelques instants. On vous attend.
Vous écoutez les voix de service.
Aujourd'hui, la fumée d'incendie a jauni le ciel et rougi le soleil. Les étoiles du nord me rappellent la mort et tu m'appelles encore. Tu dormais sur le banc tandis que je conduisais et j'espère ne jamais arriver. Regarde les étoiles. Tant qu'il y aura des étoiles sur le bord de la route, nous devrons nous arrêter. Et tant qu'il y aura des rivières, nous pourrons nous baigner. Et tant qu'il y aura le feu, comme hiver, vagabond, millionnaire, amoureux, zilliardaire, vagabond, millionnaire, amoureux. Le temps passe et un jour on est vieux et puis seul et rien ne reste plus que la fierté d'avoir aimé correctement ou la honte et les tourments de ne pas avoir compris. Attends, attends, j'ai quelque chose à te dire. Tant qu'il y aura des étoiles sur le bord de la route, nous devrons nous arrêter. Et tant qu'il y aura des rivières, nous pourrons nous baigner. Et que plus jamais rien ne redoute d'autre destin que celui du doute. Jamais je plage du lac Ontario. Millionnaire, amoureux, milliardaire, vagabond. Millionnaire, amoureux.
La chanteuse Jordan qui reprenait ici Jean Leloup, balade à Toronto.
Merci beaucoup, Roger. Deuxième texte ce matin.
Oui, c'est dans le magazine La Revue Relations, l'édition du mois d'août, qui consacre son dossier à la culture sourde. Ça s'appelle « S'ouvrir à la culture sourde ». Et parmi les textes qu'on peut lire dans ce dossier, il y a celui-ci qui a pour titre « Ces sourds qui ne veulent pas entendre ». C'est une entrevue avec Angélique Delray. « Ces sourds qui ne veulent pas entendre », c'est le titre de documentaire que celle-ci a co-réalisé. Alors, c'est le rédacteur en chef de la revue qui l'a rencontré. Le rédacteur en chef, c'est Jean-Claude Ravet. Et je vous donne un bon aperçu de ce qu'elle lui a répondu, ce qu'elle a répondu à ses questions. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans la réalisation de ce documentaire? Angélique Delray, la co-réalisatrice, Sarah Machia, est une amie. Sourde elle-même, elle milite depuis plusieurs années dans le mouvement des sourds signeurs pour la reconnaissance de la langue des signes et de la culture sourde. Grâce à elle, j'ai été sensibilisé à cette question. La grève de la faim entamée en juin 2008 par 5 militants sourds à l'Institut national des jeunes sourds à Paris a été l'événement déclencheur à l'origine du film. Cette action publique visait à faire pression sur l'État pour qu'il porte une attention plus grande à la culture sourde et pour que la langue des signes soit davantage enseignée. Les grévistes de la faim voulaient sensibiliser non seulement la communauté sourde, mais aussi la population générale, aux conséquences négatives pour la culture sourde des implants cochléaires censés « réparer » entre guillemets la surdité. C'est à ce moment que j'ai proposé à Sarah de réaliser avec moi ce documentaire pour permettre à un grand nombre de personnes de bien comprendre le point de vue de ces sourds qui ne veulent pas entendre. Position qui n'est pas évidente à saisir de prime abord, tant on est habitué à tenir pour acquis que le progrès technologique ne peut que dicter nos manières de faire et de vivre, que susciter l'adhésion, sans penser qu'il peut aussi nous enlever des choses qui méritent qu'on lutte pour elles. La résistance des sourds aux implants cochléaires est de cet ordre. Il nous alerte sur le fait que si on y prend garde, cette pratique médicale risque de faire disparaître la culture sourde qu'ils considèrent comme indissociable à leur vie, la vie des sourds. Pour ceux et celles qui sont nés sourds, le silence est leur monde, et celui-ci ouvre, à travers la langue des signes, à la culture sourde. Pour ceux et celles qui parlent une langue des signes, être sourd n'est pas un handicap en soi, c'est un mode de vie, une manière d'être au monde qui peut s'exprimer, comme on le voit dans le documentaire, par le théâtre, la danse, la musique, le slam même. La menace vient du fait que l'implant cochléaire est posé de plus en plus chez les enfants de très bas âge, généralement entre 1 et 3 ans. L'implant précoce est justifié par la très grande plasticité du cerveau, l'organe essentiel de la perception des sons, dans les 3 premières années de la vie. Durant cette période, le cerveau peut plus facilement modifier ses connexions et réseaux neuronaux, notamment dans la zone du cerveau destinée à l'audition, offrant ainsi les meilleures conditions pour que l'implant qui stimule électriquement par la voie d'électrode ses zones auditives fonctionne au maximum de ses possibilités. Passé cette période, cette zone cérébrale n'étant pas utilisée, s'atrophiera, comme l'explique une personne interviewée dans le documentaire. En fait, elle sera plutôt progressivement occupée par d'autres sens, d'autres fonctions. Toujours est-il que l'implant sera toujours beaucoup moins efficace, voire inutile. Mais même dans les meilleures conditions, l'implantation ne marche pas à tous les coups et le degré d'audition varie selon les personnes. Or, comme la très grande majorité des parents d'enfants sourds ne connaissent rien à la culture sourde, n'étant pas eux-mêmes sourds et encore moins signeurs, ils acceptent presque automatiquement cette solution, d'autant plus que les frais sont en France totalement assumés par l'État et que s'ils refusent, ils auront peu d'aide de sa part. Pour ces parents, l'implant représente la possibilité d'une part de communiquer avec leur enfant, ne pas pouvoir le faire engendre une grande souffrance, et d'autre part, celle d'un retour à la normalité pour leur enfant. Dans ces conditions, on peut facilement imaginer que la culture sourde et la langue des signes cesseront progressivement d'être transmises et disparaîtront d'ici quelques années. Ne soulevez-vous pas aussi par là un phénomène auquel on assiste dans la société actuelle, à savoir la médicalisation de la vie? Réponse de Mme Del Rey, tout à fait. La résistance des sourds à l'implant tel qu'il se pratique aujourd'hui dit certainement quelque chose d'une société comme la nôtre qui se caractérise par la médicalisation de la vie. De plus en plus, la gestion de tout problème passe par son inscription dans un parcours médicalisé, imposant ainsi une certaine forme normalisée de la vie et de la santé. En ce sens, le parcours des sourds est représentatif de ce qui se passe dans notre société. La surdité n'y est vue que comme un handicap à réparer. L'idée qu'elle puisse être un mode d'être au monde et porteuse d'une culture est complètement écartée dans la manière de la traiter. Par exemple, concernant l'implant cochléaire, au lieu de n'offrir aux parents que cette solution médicale, on pourrait imaginer une autre issue, une double possibilité, consistant à offrir l'implant, mais aussi une insertion en milieu sourd, dans la culture sourde et l'apprentissage de la langue des signes. Mais ça, on ne le fait pas, au contraire, on ferme carrément cette voie au nom de la performance, du tout à la technique et de la logique du retour sur l'investissement. On assiste à cet égard à une scène incroyable dans le documentaire. Une jeune femme sourde qui fait partie d'une minorité chez les personnes sourdes, son mari étant sourd et ses deux enfants aussi, témoigne de son expérience. Le corps médical lui a fait clairement comprendre qu'il était tout à fait en faveur de l'apprentissage de la langue des signes, mais à la seule condition qu'il soit destiné aux parents et aux enfants entendants seulement, pour permettre à ces derniers de verbaliser plus rapidement avant même l'usage de la parole. En revanche, les médecins s'y opposent carrément pour les enfants sourds, les siens notamment, car cela risquerait de menacer ou retarder leur oralisation et l'acquisition du langage, ce qui pour eux doit être l'objectif prioritaire. La langue des signes, c'est bon pour tous, sauf pour les personnes sourdes. Ces médecins n'arrivent pas à comprendre que pour les sourds, ne pas entendre ne constitue pas un problème. La vision de l'être humain sous-jacente à la médicalisation de la vie conçoit l'humain comme une surface lisse à laquelle on peut retrancher des parties ou en ajouter d'autres dans une logique de performance mesurable économiquement, évidemment. C'est une vision erronée de l'être humain. Les personnes sourdes, par exemple, parce qu'elles sont sourdes, vont précisément développer d'autres facultés, d'autres compétences qui s'accompagnent de nouvelles connexions neuronales permettant notamment de voir avec beaucoup plus d'acuité que bien des personnes entendantes qui laissent en quelque sorte en friche le monde visuel. Alors que la personne sourde, par son manque, arrive à l'investir davantage en épuisant du sens. La surdité ouvre à un mode d'être au monde différent qui exprime le monde autrement. C'est une richesse et non un handicap. Alors, c'est le combat des sourds. Je ne savais pas que ça existait. On n'est pas vraiment au courant de ces choses-là. Mais il semblerait que la langue des signes est appelée à disparaître.
Ah, bon sang.
Pour les sourds.
Un art, en fait. Hein?
Oui, c'est ça. Oui, exactement.
Tout à fait. Merci beaucoup, Roger. On va revenir dans quelques instants avec Serge. Alors, Serge,
oui.
Prêt pour le deuxième texte?
Oh, monsieur, si je suis prêt. L'ultime rempart des consommateurs. Par Marie-Hélène Proux, dans la revue Protégez-vous. Les Québécois ont de quoi pavoiser. Ils ont créé, dans les années 70, des mesures qui font l'envie de la planète pour se protéger des commerçants véreux. 40 ans plus tard, nos droits sont-ils toujours bien défendus? Il fut un temps pas si lointain où, au Québec, un citoyen pauvre comme Job, qui était victime d'un escroc, se retrouvait sans recours, faute d'argent, pour se payer un avocat, où il n'était pas permis au propriétaire d'une tondeuse, lui ayant explosé au visage, de poursuivre son fabricant. Où un employé sans scrupules d'une maison funéraire pouvait se présenter à l'hôpital pour vendre des préarrangements. Et où un commerçant n'avait pas à se badrer de faire signer des contrats en français à ses clients. Certes, en 2018, les arnaqueurs continuent d'arnaquer et des marchands se comportent encore en polisson. Mais les Québécois sont devenus parmi les mieux équipés au monde pour leur faire faire la vie dure grâce à de puissants outils adoptés par l'État dans les années 70, à commencer par la Loi sur la protection du consommateur, LPC, et son gardien, l'Office de la protection du consommateur, OPC, dont la mission est de contraindre les entreprises à marcher droit. 40 ans après la mise sur pied de ces mécanismes de défense, les consommateurs sont-ils toujours aussi bien protégés? Des experts et les membres d'associations se sont penchés sur la question et certains à l'occasion d'une table ronde marquant le deuxième volet d'une série destinée à souligner les 45 ans de la revue Protégez-vous. Bilan de leur réflexion. Quand Réal Coyer a commencé sa carrière à l'OPC en 1980, tout était rutilant dans les bureaux et les employés étaient armés comme des chevaliers cathares pour mener à bien leur mission, faire respecter les droits tout neufs que le Québec venait d'accorder aux consommateurs. Sur la ligne de front, des agents prompts à répondre aux appels des citoyens, des enquêteurs qui débarquaient dans les entreprises soupçonnées d'abus et des avocats qui n'hésitaient pas à intenter des recours judiciaires contre les contrevenants. Des Européens venaient jusqu'ici pour étudier notre fonctionnement, se rappelle le retraité qui a grimpé les échelons jusqu'au poste de directeur régional des bureaux de la succursale Montréal, Montérégie et Laval. Ce qu'on faisait était très avant-gardiste. La LPC a redonné du pouvoir aux consommateurs face aux commerçants, qui faisaient jusqu'alors la pluie et le beau temps, soutient Gabrielle Roel, conseillère budgétaire de l'ACEF du sud-ouest de Montréal, un OSBL qui aide les gens à reprendre en main leurs finances. Par exemple, les législateurs ont obligé les entreprises à rédiger des contrats assez détaillés pour que l'acheteur prenne une décision éclairée, ce qu'elle n'était pas tenue de faire avant. Explique-t-elle. Ce n'était rien de moins qu'une révolution, estime Pierre-Claude Lafont, spécialiste du droit de la consommation à l'Université de Montréal. Et en particulier, la deuxième mouture de la LPC, adoptée en 1978, beaucoup plus ambitieuse que celle mise en place en 1971, la loi est passée de 100 à 300 articles. Et parmi ces éléments les plus audacieux, l'interdiction de diffuser de la publicité destinée aux enfants de moins de 13 ans, une première dans le monde, qui fait toujours figure d'exception. Seule la Norvège et la Suède et la Norvège, non, ça fait Norvège, pas Suède, en tout cas, nous ont imités. Autre mesure musclée, le recours en dommages-intérêts punitifs, lequel autorise un tribunal à condamner un commerçant fautif à une amende très salée, assez pour lui enlever le goût de recommencer. Mais pour cet expert, l'innovation principale, celle qui a donné des ailes au droit de la consommation, c'est la loi sur le recours collectif, rebaptisée depuis Fonds d'aide aux actions collectives, entérinée en 1978. Et pour la première fois, des gens pouvaient se regrouper pour poursuivre un fabricant. Ce n'était plus David contre Goliath, mais des milliers de consommateurs unissant leurs forces pour obtenir des compensations. Et un moyen d'action aujourd'hui convoité par une partie de la planète, indique Pierre-Claude Lafont. Au fil du temps, ces mesures combinées ont rapporté des millions en compensations à des Québécois qui s'étaient fait avoir. L'an dernier seulement, l'OPC a aidé 3115 personnes à empocher plus de 2 millions de dollars en indemnisations diverses. Il a aussi intenté 165 poursuites pénales contre des entreprises qui ont été sanctionnées à hauteur de 1 400 000 dollars. Mission accomplie, donc, oui et non.
Non.
C'est que même si la LPC a encore fière allure sur papier, dans la vraie vie, son application est un chemin de croix. Parce que l'évolution de la technologie la rend vite désuète, que l'OPC manque de moyens pour la faire respecter, que les consommateurs la connaissent mal et que les mécanismes judiciaires permettant à ces derniers de se défendre sont mal adaptés à leurs besoins, pas assez vite sur ses patins. des fleurs d'abord, grâce à la pugnacité des groupes de défense des droits au Québec, la LPC est la seule loi sur la consommation au Canada à faire l'objet d'efforts continus pour suivre les mutations des pratiques commerciales. Ainsi, les refondes de 2007 et 2010 incluent des clauses relatives aux contrats de cellulaire et aux contrats conclus par Internet des produits et services qui, en 1971, n'étaient que des embryons dans la tête de quelques génies. L'ennui, c'est que les habitudes des consommateurs se transforment à une vitesse folle à cause de la technologie, plus vite que la capacité de la loi à s'adapter, si bien qu'à certains égards, les gens sont moins bien protégés qu'ils pensent l'être. Un exemple, par exemple. Le paiement électronique. Oh, vous pensez pouvoir faire des transactions en ligne en toute sécurité? Pauvre de vous! S'exclame Jacques Saint-Amand, chargé de cours au département des sciences juridiques à l'Université du Québec à Montréal. Ces transactions sont encore mal encadrées par la loi. Si une entreprise prélève deux fois le même montant, par erreur, dans votre compte bancaire, par exemple, en principe, ce sera à vous de convaincre un tribunal qu'elle s'est trompée. Les achats sur le web auprès d'entreprises étrangères, une tendance en croissance, représentent aussi un casse-tête pour les législateurs. À qui s'adresser si le produit se désintègre à la première utilisation, si votre tondeuse vous explose en pleine face, comme on disait tantôt? Alors, ce sont les normes québécoises qui prévalent et non celles du pays où il a été conçu, explique le juriste. Mais bonne chance pour les faire respecter à l'autre bout du monde. Alors, faire moins avec moins, mais au-delà des mises à jour qui tardent, les experts et militants sondés dans ce reportage s'inquiètent surtout du manque de ressources pour faire appliquer la LPC. C'est le cas du chercheur Pierre-Claude Lafont. Même si c'est interdit, les journaux sont remplis de publicités trompeuses, dit-il. Des marchands vendent des garanties prolongées, sans mentionner qu'il existe une garantie légale qui protège déjà l'acheteur, alors qu'ils y sont tenus. Et d'autres proposent des faux rabais, comme les fameux 50% sur les matelas. Ouais. Ah, il y a de quoi s'endormir. Or, s'ils ont le champ libre, c'est entre autres parce qu'il y a peu d'inspecteurs pour veiller à ce que la loi soit respectée. Enfin, en effet, l'organisme chargé de faire appliquer la loi sur la protection du consommateur, l'OPC, a subi en 1995 une saignée à blanc dont il ne s'est jamais relevé, jugent les participants à la table ronde. On lui a coupé les jambes, déplore Georges Inny, président de l'Association pour la protection des automobilistes, APA. Doté d'une enveloppe de 11 millions de dollars en 1994, l'OPC doit composer avec 9,5 millions sur 25 ans plus tard, soit l'équivalent d'une poignée de petites monnaies dans la cagnotte annuelle totale de 100 milliards de dollars du gouvernement du Québec. Et c'est bien peu pour encadrer la consommation. Une activité dont on sait que les retombées représentent plus de la moitié du produit intérieur brut de la province, dénonce Jacques Saint-Amand. Et sans elle, notre économie s'effondrerait. Alors, je ne sais pas si vous êtes assez au courant maintenant. Est-ce que vous voulez que j'en rajoute un petit peu?
Non, ça va aller.
Ça va aller.
On est assez découragé. Finalement. Merci beaucoup, Serge.
Ça va quand même.
Oui, c'est ça. Je vous reviens dans quelques instants avec un texte. Survivre aux nuits de canicule. Est-ce qu'on est dans le sujet?
Oui.
Ah ouais. Alors, il fait chaud, il fait beau, on est content parce que cet hiver, on va dire qu'il fait froid.
Et voilà. Mais là, il fait trop chaud.
Et voilà, c'est ça. Ouais,
quand c'est trop, hein?
Ben voilà. Ben, je vais vous donner des trucs si jamais vous n'avez pas d'air conditionné.
Hein? Ah, moi, j'en ai un, alors je vous écoute pas.
OK, écoutez-moi pas. Il y a sûrement des gens qui vont m'écouter quand même.
Oui, mon voisin du deuxième.
Oui. Survivre aux nuits de canicule, c'est un papier que j'ai retrouvé sur le site de la presse. C'est un texte de Isabelle Morin. Elle dit « La nuit est suffocante et les bruits émis par le climatiseur du voisin vous rappellent que vous n'en avez pas. Que faire? Sinon, prendre votre mal en patience en comptant les moutons? Réponses et astuces d'un spécialiste du sommeil. Sommeil de nuit d'été. Vous l'avez certainement constaté ces derniers jours, canicule et sommeil ne font pas bon ménage. De quelle façon la chaleur perturbe-t-elle le sommeil? Alex Desautels, neurologue et directeur du Centre d'études avancées en médecine du sommeil de l'hôpital du Sacré-Cœur, répond à nos questions. Voilà la première question. Pourquoi dort-on mal quand il fait chaud? Question de confort, répond Alex Desautels. La chaleur est un stimulus qui perturbe le sommeil, au même titre que la lumière, le bruit ou la douleur. Voilà pour la réponse courte. En creusant davantage, on trouve toutefois un lien intéressant entre la température corporelle et sommeil, indique le spécialiste. La température du corps suit un rythme circadien. Voilà. Autrement dit, sa température varie sur une période de 24 heures et des poussières. Avant le sommeil, elle diminue pour créer des conditions favorables à l'endormissement. Les veines se dilatent et la chaleur du corps se dissipe pour atteindre son point de chute maximal de 5 à 6 heures plus tard. Elle remonte ensuite graduellement entre 1 et 3 heures avant le réveil. Quant à savoir si le mercure en hausse contribue au mauvais fonctionnement de ce thermomètre interne, on peut en présumer, selon le spécialiste, mais les études sur le sujet sont encore trop limitées pour établir un lien cause à effet. Maintenant, pourquoi rêve-t-on plus quand on dort mal? Différentes phrases du sommeil reviennent de manière récurrente tout au long de la nuit. Le sommeil REM, acronyme de Rapid Eyes Movement, est la période durant laquelle on rêve. Elle survient toutes les 90 minutes. Durant cette phase, la capacité de thermorégulation du corps est diminuée, ce qui pourrait expliquer les réveils périodiques en cas de canicule et pourquoi on a l'impression au petit matin d'être épuisé par une mauvaise nuit passée à rêver. Autre petite question, une sieste peut-elle compenser une mauvaise nuit? Faire des siestes, c'est bon, répond Alex Desautels. Si on a mal dormi, on est en dette de sommeil et on sera un peu plus somnolent au cours de la journée. Bon, certes, mais à certaines conditions, nuance-t-il toutefois. Une bonne sieste doit être courte, inférieure à 30 minutes, pour éviter de sombrer dans un sommeil profond qui pourrait changer l'architecture du sommeil le soir venu. Elle devrait aussi être faite à un moment de somnolence et dans des conditions optimales pour bien dormir, c'est-à-dire dans le lit et à la noirceur. Par ailleurs, on ne devrait jamais s'abandonner au bras de Morphée passé 15 heures. Une sieste devrait être récupératrice sans interférer avec le sommeil nocturne. Devrait-on se coucher plus tard pour suivre le cycle de la lumière? Quand il fait quand même noir juste à 9h30 le soir. Mais la lumière a un impact sur nos mesures de veille-sommeil, car notre rythme circadien, se régularise en se synchronisant avec la lumière. La question n'est pas tant de savoir si on peut se coucher plus tard, mais comment ne pas être privé de sommeil, souligne Alex Desautels. Pour éviter d'entrer en déficit, il faut respecter le nombre d'heures de sommeil dont on a besoin. Si on se couche plus tard, on devrait aussi se lever plus tard. Quelles habitudes adopter pour se plonger plus facilement dans le sommeil? C'est une question aussi. On ne peut forcer le cerveau et le corps à s'endormir s'ils ne sont pas prêts à le faire. On peut toutefois poser les conditions qui permettent de capter les signaux de somnolence et de trouver ainsi la porte d'entrée vers le sommeil en faisant des activités relaxantes. Proscrire l'activité sportive avant de se coucher, qui augmente la température corporelle et active le système sympathique associé au stress. Les écrans qui stimulent le cerveau et dont la lumière bleue imbibe la production de mélatonine, les boissons énergisantes comme le thé, le café et les repas trop lourds qui mobilisent le système digestif et augmentent la température corporelle. Alors voilà, c'est un texte que vous allez retrouver sur lapresse.com. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci à Roger Roy, merci à Serge Hamelin, merci à Jean-Sébastien Laliberté de l'autre côté de la vitre qui mène cette émission d'une main de maître. Reste à l'écoute dans quelques instants, le quotidien des quotidiens avec François Brodeur. On vous souhaite une excellente semaine. C'est vous.